nous vivons une époque formidable.
Quoique.
Bienvenue dans les matinales de Barthas.
À partir de 8h30.
Quoique.
Le lundi, le mercredi.
Beaucoup de local.
Et puis, un peu d'autre chose.
Les matinales de Barthas.
En direct.
Sur le 107FM.
J'ai retrouvé mes lunettes.
Allez, bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur Radio Barthas, bienvenue sur le 107, nous sommes le lundi 5 juillet, il est 8h30. Au programme de cette matinale, nous serons dans un instant avec Célia et Chloé, qui sont toutes les deux au CFPPA, l'une à Florac, l'autre à Marvejol. On va parler de leur parcours dans un instant. Et ce week-end, c'était, vous le savez sans doute, le festival Enemy BD, et il y aura la première partie des interviews. On rencontrera notamment Olivier Berlion, qui a fait l'affiche du festival, et le prix légende du festival, c'est Lugui. Ça, ce sera en deuxième partie. On va de la musique, comme d'hab, mais on commence évidemment par l'édito.
On peut être en désaccord. Mais enfin, vu le ramassis de saloperies que je vous ai dégoté là...
Ce n'est que l'édito des Barthas. Les deux tiers de la population française sont déjà fortement ou très fortement exposés au risque climatique, alerté le mercredi 30 juin dernier le Haut Conseil pour le Climat. L'instance indépendante chargée d'apporter un éclairage sur la politique climatique du gouvernement publiait son rapport annuel. L'étude souligne que l'Hexagone est particulièrement vulnérable à l'érosion côtière, à la montée des eaux, mais aussi aux vagues de chaleur et aux méga incendies de forêt. L'organisme scientifique avance par ailleurs que, je cite, « En raison du retard accumulé par la France, le rythme actuel de réduction annuelle des émissions de CO2 devra pratiquement doubler. » En somme, le pays se prépare mal au choc climatique. Le lendemain de la publication du Haut Conseil pour le Climat, le Conseil d'État sommet le gouvernement de prendre toutes les mesures utiles d'ici à 9 mois pour que la France réduise enfin drastiquement ses émissions de gaz à effet de serre. Une décision historique. Concernant le respect des engagements climatiques français, l'instance a lâché un cinglant, le compte n'y est pas. Mais bon, la représentation nationale n'a pas débattu cette semaine de l'avis émis par le Haut Conseil pour le climat et de la décision du Conseil d'État, mais de la loi contre le séparatisme. Et oui, à l'image de ce qu'il se passe au Canada, la terre brûle, le pouvoir regarde ailleurs, et ce n'est pas pour notre bien. Lord, come down and help us out. Send us an angel, help us out. SOS, help us out. Looking all around and watching the world. People killing, people dying, people lying, people blind. People don't see the sign, watching money all the time. Get the pennies, get the dimes, get the dollars as the mind. State of the human race, people on a paper chase. The environment is fragile, and we've been on the gradual. Declining in a lifetime, we'll lose the battle. Get burned by volcanoes, get blown by tornadoes. Cause Mother Nature signals, is trying to warn NATO. We got a new terror threat, it's called the weather. More deadlier than chemical and nuclear together. It's hotter in the winter, even hotter in the summer. Jesus or Buddha, somebody come and help. Lord, come down and help us out. Send us an angel, help us out. SOS, help us out. Looking all around in the marginal world. Changing. Open up your eyes, you can see things are going ranging. The world is dying. And if they say it's gonna be alright, then people are lying. People trapped behind the gates, ignorance in a state of mind, cause they formulate a plan just to penetrate us. You see, they stimulate us with fear, manipulate us. Each year they dominate, dividing us like calculators. And we can't add it up cause calculators do the math for us. And here they come chopping down the rainforest, fucking up our air for us. They don't really care for us. And we can't complain because the only one to blame is us. The gas is rising up, but we keep on filling up. CO2 levels got the whole planet heated up. It's blazing in the winter, even hotter in the summer. Muhammad, Jehovah, somebody come and help us out. Lord, come down and help us out. Send us an angel, help us out. SOS, help us out. Looks like we ain't gonna figure it out. Lord, come down and help us out. Send us an angel, help us out. SOS, help us out. Looking all around and I'm watching the world changing. Open up your eyes, you can see things rearranging. The world. It's gonna be okay, they just pretending.
When an Eskimo gets bit by a mosquito, somebody in Miami will get swept by a tsunami. Rastas in Jamaica will get hit by a quake that registers something like 8.8. You see, a situation's happening with our planet, cause 20 years ago we took it for granted. We should have took advantage and reversed the damage, instead of just pumping and selling and slanging the gas. And while we purchased the gas, we was watching soap operas while they steady brainwashed the masses, cause they could make a vehicle that runs off ashes. But they don't own a patent for that, and that's exactly what's happening. Corruption and bullshit politics. The planet's gonna die cause of bullshit politics. It's hotter in the winter, even hotter in the summer, and ain't nobody coming to the rescue to help the help the help the.
C'est l'occasion qui fait le larron, comme on dit, un match de volley, et je rencontre presque par hasard deux personnes qui sont au CFPPA. Au Magie, on a une convention avec eux, ben, je leur ai demandé de venir à la radio, un peu impressionnée par le studio, elle pensait que c'était avec un petit enregistreur. Eh non. Chloé, bonjour.
Bonjour.
Célia, bonjour.
Bonjour.
Et donc vous êtes au CFPPA, alors on va commencer par toi, Chloé. Déjà, tu viens d'où ?
Alors moi, je viens de Loire-Atlantique, entre Nantes et Rennes. J'ai fait des études à Rennes et je me suis retrouvée en Lozère par un pur hasard. Incroyable. Ah,
c'est quoi ce hasard ?
J'étais en saison avec une fille et en fait le confinement est arrivé, le premier confinement, et du coup je suis allée me confiner avec elle dans sa région qui est la Lozère.
Coup de bol, on a pas mal été confinés ici.
Ouais, c'est ça, bah, c'était le meilleur endroit pour se confiner je pense. Donc voilà, après j'ai rencontré un apiculteur et du coup j'ai décidé de faire ma formation par la suite directement en septembre.
Donc c'est l'apiculteur que tu as rencontré qui t'a donné envie de devenir apicultrice, ou tu avais déjà des notions en
J'avais déjà l'idée de vouloir rencontrer, c'est moi qui ai décidé de rencontrer un apiculteur parce que j'étais intéressée par ça. Et du coup j'ai eu la chance d'avoir un numéro de téléphone et je l'ai appelé, j'ai passé 2 jours avec lui et c'était super.
Alors c'est lui qui t'a parlé du CFPPA? Ou alors c'est en faisant des recherches que tu t'es dit « Ah tiens, il y a le CFPPA
». J'étais confinée avec quelqu'un qui faisait le BPREA. Du coup, j'avais déjà entendu parler du BPREA.
Qu'on comprenne bien, le BPREA, c'est quoi ?
C'est un diplôme agricole.
Ouais.
Je ne saurais pas dire.
Ouais, les acronymes, ouais, voilà, un BPREA. Donc, tu intègres le CFPPA, tu l'as intégré quand ?
En septembre, à Marvejols.
À Marvejols, oui.
Ah, moi, je suis à Marvejols.
Précisons qu'il y a plusieurs antennes aussi du CFPPA, pour ceux qui ne le sauraient pas. Qu'est-ce que tu as appris ?
Qu'est-ce que j'ai appris ? Alors, alors là, c'est un peu large. On voit un peu comment gérer un peu la gestion, comment commencer à s'installer. Et après, moi, j'ai appris beaucoup de techniques en apiculture. On avait un rucher école et du coup, on a vu de la théorie, de la pratique, élevage de rennes, tout ce qui est lié à l'apiculture. Et sinon, plus particulièrement en BPRA, on fait de la compta, de la commercialisation, négociation, comment se vendre aussi, ça fait partie du truc.
Est-ce que maintenant que tu as acquis certaines connaissances, je pense que comme dans tous les métiers, on en a tous les jours à apprendre. Oui. Est-ce que tu as toujours envie de te lancer ? Est-ce que tu es confiante ?
Alors j'ai toujours envie de me lancer, bien sûr, ouais, parce qu'on met en place notre projet qui évolue tout au long de l'année. Mais je considère que je ne suis pas capable, aujourd'hui j'ai fini mon BPRA, je considère que je ne suis toujours pas capable de m'installer. Parce que je n'ai pas fait d'apiculture avant, parce que je pense que ce n'est pas suffisant. Moi, je compte faire des saisons pendant quelques années avant de m'installer, histoire d'être prête.
Et toujours de suivre des apiculteurs et apicultrices, d'aller faire des stages, etc.
Ouais.
Te former ?
Me former, en fait, toute seule. En fait. Apprendre différentes techniques aussi, parce que l'apiculture, c'est super large. Chaque personne a une technique différente. Afin de trouver la mienne, qui sera la meilleure à mes yeux, quoi.
On parle, alors je sais pas, du frelon asiatique notamment, qui est un fléau pour les abeilles. Beaucoup disent que les abeilles s'adapteront de toute façon au frelon. Est-ce que toi ça te fait peur, ou est-ce que au final tu te dis quoi, les abeilles y arriveront?
Moi je suis assez confiante par rapport au frelon. Après, en fait il y a tellement de maladies en ce moment, et il y en a d'autres qui vont arriver, et je pense que là actuellement on est dans la préparation de futures maladies à venir, en fait, pour l'abeille. Donc il y a le varroa qui est hyper présent.
Le varroa.
Ouais, c'est une maladie du couvain, en fait, et ça déforme les ailes, l'abdomen, ça les rend plus fragiles, en fait, et c'est une maladie qui est répandue, il y en a partout. Et ouais, je pense qu'il faudra se préparer à ce genre de choses, des petites maladies.
Et justement, on dit que sans abeilles, en 50 ans, il n'y a plus de planète.
Ouais, je pense qu'on a besoin des abeilles, qu'on a besoin de polliniser, tout ça, c'est super important.
Bon, heureusement, il n'y a pas qu'elles, mais non, mais les abeilles, c'est magique.
Les abeilles sauvages aussi, tout ça.
Est-ce qu'on sait combien il y a de types de races d'abeilles? Est-ce qu'on parle de races, d'ailleurs?
Ouais, carrément, on peut parler de races. Donc, après, il y a des races qui ont été génétiquement créées, comme la Buckfast. Sinon, on a la baie noire, donc ça, endémique d'Europe. On peut avoir la caucasienne. On a quand même différents types. Donc, il y en a qui essayent de préserver une génétique pure. Et après, naturellement, on peut pas toujours tout décider. Donc, il y a l'hybridation naturelle qui se fait des mâles aux rennes.
C'est génial. Et justement, est-ce que élever une reine, c'est la chose la plus dure? Parce que bon, c'est elle qui créera la ruche.
Ouais.
C'est ça qui est le plus dur, ou bien justement c'est dans son entretien?
Je pense que l'élevage de reine, c'est pas hyper compliqué. Faut avoir du matériel, la technique, etc. Ouais, je pense que c'est ce qu'il y a autour, en fait, qui est plus compliqué à gérer. C'est le truc qu'on ne peut pas gérer, finalement, on n'a pas de, pouvoir.
Je comprends. Est-ce que tu recommandes le CFPPA?
Ouais. Je pense que pour quelqu'un comme moi, qui du coup n'a rien à voir avec le monde agricole de base, ça met un bon pied dedans. Ça te donne quand même une base qui est pour moi pas suffisante, mais ça te donne quand même une sacrée base.
Précisons que je ne t'ai pas payé pour dire du bien du CFPPA. Tu peux en dire tout le mal que tu veux.
Oui, bien sûr. Non, mais après, pour moi, c'était positif, donc je préfère le dire quand même. Pour moi, c'était quelque chose de positif, et je pense que moi, je conseille quand même de. C'est un bon pilier, quoi.
Célia. La même chose, hein, tu es au CFPPA, toi t'es ici à Florac ou Marvejols?
Oui, moi je suis à Florac, en maraîchage du coup.
Alors justement, tu nous viens d'où?
Des Vosges, je suis originaire des Vosges, j'ai grandi, j'ai fait mes études là-bas, et ensuite j'étais dans la restauration, donc j'ai fait des saisons pendant une dizaine d'années, et voilà, et ensuite y a tout qui a été un petit peu bousculé avec la situation Covid, donc j'ai pas pu travailler pendant longtemps, et ça a remis beaucoup de choses en question. Et du coup, j'ai décidé de faire le BPREA. Et voilà, je suis débarquée en Lozère.
Comment tu as eu vent, toi qui es dans les Vosges, du CFPPA?
Alors, c'était vraiment par hasard. Je cherchais un BPREA n'importe où, dans une région que je ne connaissais pas. Et du coup, j'ai fait des candidatures et j'ai été prise en Bretagne et en Lozère. Et Bretagne, je connaissais un petit peu quand même, donc Lozère je connaissais pas du tout, je savais à peine où c'était sur la carte. Et du coup voilà, du coup j'ai décidé de venir ici pour découvrir.
Parce qu'il y a un concours pour rentrer, comment ça se passe?
Non,
un entretien?
C'est un entretien. Après c'est un peu différent en fonction des écoles, des CFPPA, chacun fait un peu des sélections différentes, mais voilà, il y a un petit dossier ou un petit entretien pour présenter un peu son projet et voilà.
Comment ça s'est passé, ta formation? Est-ce que ça a répondu à tes attentes?
Mais alors moi j'ai commencé qu'en avril, donc ça fait qu'à peine 3 mois que j'ai commencé. Du coup c'est vraiment le début encore. Donc pour le moment je suis contente parce qu'on a fait pas mal de techniques, on a des options au choix. Et voilà, j'avais choisi tourisme rural et j'ai fait aussi pierre sèche. Et voilà, du coup c'était super, super intéressant. Mais du coup, j'ai pas encore abordé tous les cours. Donc, on verra par la suite. Mais jusque-là, en tout cas, je suis bien satisfaite.
Tourisme rural, C'est donc développer le tourisme dans des coins comme la Lozère, c'est ça?
Alors c'est vraiment, les options elles sont liées plus à, au fait de diversifier son activité à côté de l'activité agricole. Et voilà, du coup il y en a plusieurs qui sont proposées, dont la transformation. Et voilà, le tourisme rural c'est vraiment pour développer du coup une activité touristique à côté de son activité agricole.
Visite de ferme et autres.
Voilà, ou même des gîtes, des chambres d'hôtes, ferme pédagogique. Goûter la ferme.
Qu'est-ce qui t'intéresse dans le maraîchage? D'ailleurs, est-ce que c'est pas flippant, parce qu'on est tributaire forcément de la météo, mais qu'est-ce qui t'a attiré, toi, dans le fait de vouloir faire du maraîchage?
C'est un peu basique, mais je crois que c'est juste le retour à la terre, plus, qui était vraiment... j'avais fait plusieurs... j'avais fait du woofing, donc du bénévolat dans des fermes à l'étranger, et c'est comme ça que j'ai découvert, du coup, plus le travail dans les fermes, dont le maraîchage. Et ça m'a vraiment bien botté. Donc ça fait quelques années que j'ai ça en tête et que ça a mûri petit à petit. Et j'avais toujours aimé faire beaucoup de jardin. Alors c'est pas la même chose, mais c'est quand même une bonne base, je pense, pour ensuite continuer dans le maraîchage. Mmh. Et voilà. Et du coup, c'était vraiment évident déjà le fait de travailler dehors et d'être en contact avec la nature tout le temps, d'avoir les mains dans la terre. Enfin, c'est comparable, quoi.
Est-ce que tu as une idée du projet que tu veux monter dans là ou les années à venir?
Ouais, je crois que ce sera plus dans les années à venir parce que c'est pas encore trop défini. Il manque encore beaucoup de techniques parce que c'est vrai que l'ALBE PREA, c'est vraiment pour ouvrir ton entreprise agricole, mais il n'y a pas énorme en technique. Et vu que j'ai pas beaucoup travaillé en maraîchage, finalement, j'aurais besoin d'encore beaucoup d'expérience. C'est un petit peu défini, je sais pas encore bien. Enfin, un projet maraîchage, du coup, vraiment diversifié plutôt sur une petite surface, avec les principes de maraîchage sur sol vivant. Enfin, vraiment pas... pas de l'intensif. Et ensuite, du coup, développer une activité à côté touristique. Là, je suis plutôt sur un projet chambre d'hôtes insolite avec table d'hôtes. Après, ça pourra peut-être encore évoluer, mais voilà. Quand même allier ce truc restauration et agriculture, c'est un projet qui m'intéresse bien.
Avec forcément les produits qui viennent de ta ferme, quoi.
Voilà, tout à fait.
Justement, est-ce que tu conseillerais le CFPPA?
Bon, jusque-là, oui. Moi, je suis très satisfaite de la formation. Après, ça fait 3 mois. Peut-être que dans un an, je ne dirais pas la même chose. Mais pour le moment, là, je suis vraiment contente de ma formation.
Et justement, si tu devais attendre quelque chose, une petite amélioration, ce serait quoi? Plus de pratiques?
Plus de pratiques. On est quand même... Enfin, moi, je sais que ça pêche pour beaucoup. Il y en a beaucoup qui aimeraient avoir beaucoup de techniques. Moi, j'avais rencontré beaucoup de gens qui avaient fait cette formation et on m'avait prévenu que ce n'était pas une formation technique. Donc, c'est vrai que plus de techniques, oui, c'est toujours génial à avoir.
Il y a des stages que tu vas devoir suivre, je suppose?
Ouais, il y a 8 semaines en tout, dans toute la formation.
Ça. Ça fait 8 semaines de stage où tu peux quand même
t'exercer. C'est ça, ouais.
T'as déjà trouvé ton lieu ou...
Oui, alors, j'en ai déjà fait 2 semaines en avril et là, du coup, on part la semaine prochaine en stage... Voilà.
Et tu pars où?
Je vais à Saint-Privat-de-Valongues.
Ça va être pas mal là-bas.
Ça va être génial. Ouais, j'avais fait mon premier stage en avril là-bas et ça s'est super bien passé.
Une installation future en Lozère ou le retour aux sources dans les Vosges?
Ça, l'avenir nous le dira. Je sais pas encore.
En tout cas, merci beaucoup Célia.
Avec plaisir.
Et merci Chloé.
Avec plaisir.
D'être passé dans nos studios parler du CFPPA, nous qu'on aime beaucoup ici, c'est vrai. Ce sont des gens qu'on aime beaucoup. À bientôt.
À bientôt.
Merci. À bientôt. Merci.
Au premier temps de la valse, toute seule. Tu souris déjà au premier temps de la valse. Je suis seul, mais je t'aperçois. Et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi. Et Paris qui bat la mesure, me murmure, murmure tout bas. Une valse à 3 temps qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour, comme c'est charmant, une valse à 4 temps. C'est beaucoup moins dansant. C'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à 3 temps, une valse à 4 temps, une valse à 20 ans. C'est beaucoup plus troublant. C'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant qu'une valse à 3 temps, une valse à 20 ans, une valse à 100 ans. Une valse à 100 ans. Une valse à 100 ans, à chaque carrefour dans Paris que l'amour rafraîchit au printemps. Une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps. Une valse à 1000 temps de patienter 20 ans pour que tu aies 20 ans et pour que j'aie 20 ans. Une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps. Une valse à 1000 temps offre selon sa main 333 fois le temps de bâtir un roman. Au deuxième temps de la valse, on est deux, tu es dans mes bras. Au deuxième temps de la valse, nous comptons tous les deux, une, deux, trois. Et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi. Et Paris qui bat la mesure, nous fredonne, fredonne déjà. Une valse à 3 temps, qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour, comme c'est charmant, une valse à 4 temps. C'est beaucoup moins dansant, c'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à 3 temps, une valse à 4 temps, une valse à 20 ans. C'est beaucoup plus troublant, c'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant qu'une valse à 3 temps, une valse à 20 ans, une valse à 100 ans. Une valse à 100 ans, une valse à 100 ans, à chaque carrefour dans Paris que l'amour rafraîchit au printemps. Une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps de patienter 20 ans pour que tu aies 20 ans et pour que j'aie 20 ans. Une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps, frosse nos amants 333 fois le temps de bâtir un roman. Au troisième temps de la valse, nous valsons enfin tous les trois. Au troisième temps de la valse, il y a toi, il y a l'amour et à moi. Et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi. Et Paris qui bat la mesure, laisse enfin éclater sa joie. Une valse à 3 temps, qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour, comme c'est charmant, une valse à 4 temps. C'est beaucoup moins dansant, c'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à 3 temps, une valse à 4 temps, une valse à 20 ans. C'est beaucoup plus troublant, c'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant qu'une valse à 3 temps, une valse à 20 ans, une valse à 100 ans, une valse à 100 ans, une valse à 100 ans, à chaque carrefour dans Paris que l'amour rafraîchit au printemps, une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps. Une valse à 1000 temps de patienter 20 ans pour que tu aies 20 ans et pour que j'aie 20 ans. Une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps, frais selon sa main, 333 fois le temps de bâtir un roman. La 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 la, la la la, la 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 la.
Voilà la première partie des interviews du festival Ennemi BD. On commence avec la rencontre avec Olivier Berlion, le concepteur de l'affiche cette année. Comment est-il arrivé au festival? Comment il a connu Saint-Ennemi? Il nous répond.
Je connaissais un petit peu Saint-Ennemi puisque je suis un cycliste amateur et j'étais passé souvent dans le coin. Donc je suis venu volontiers, j'adore ce village. Et puis voilà, j'ai reçu l'an dernier le prix de Bulle de Burle. Et puis, il y a 6 mois, Philippe, l'organisateur, m'a demandé si je voulais bien faire l'affiche. Et c'était donc avec plaisir. Et en plus, donc, dessiner Saint-Ennemi, que j'aimais beaucoup comme village. Voilà.
T'as eu des contraintes, il y a des contraintes qu'on t'impose. Comment ça se passe, en fait, de faire l'affiche?
Bah, il faut qu'on voit le village, qu'on le reconnaisse. Hein. Donc, du coup, on va chercher une vue. Et souvent, comme c'est quand même un petit village, les vues, c'est un peu toujours les mêmes. Il faut trouver une vue emblématique pour qu'on le reconnaisse. Et là, la contrainte, la seule, c'est qu'il a fallu que... Je mette des pavés à la place du goudron sur la route pour que ça fasse un petit peu plus authentique, plus ancien, plus moyenâgeux. Voilà. Et puis j'ai mis une petite charrette aussi, genre début de siècle, avec un âne, pour donner ce côté un petit peu terroir, authentique.
Pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es qui, Olivier ?
Je suis auteur de BD depuis une trentaine d'années, donc ce qui est compliqué, c'est de dire ce que j'ai fait, parce que j'ai fait beaucoup, beaucoup de choses et très, très différentes. Voilà. Alors j'ai fait beaucoup... Alors on va dire mon personnage le plus connu s'appelle Tony Corso. J'en ai fait 7 albums. C'est un détective privé qui navigue sur les bords de la Méditerranée et qui travaille pour les milliardaires qui n'ont pas trop envie d'appeler l'État parce qu'ils ont de l'argent caché. Choses comme ça. Et sinon, j'ai fait des BD pour enfants. Une qui s'appelle Salmioche, qui se passait dans les rues de Lyon. Des petits gones, des aventures un peu comme le Club des Cinq. J'ai fait j'ai fait une BD qui s'appelle Agatha, qui se passe aux États-Unis, qui parle de Lucky Luciano, enfin le syndicat du crime dans les années 30, et la rencontre avec une jeune femme immigrée polonaise. C'est une fresque un petit peu à l'américaine. J'avais envie depuis longtemps de faire ça, et voilà.
Si tu pouvais décrire en un dessin l'année qui vient de se dérouler, à quoi tu penserais ?
Oula, je crois que je ferais pas un dessin très rigolo, hein. C'est plutôt un dessin triste. Hein. Moi, je pense qu'il faudrait appeler Sampé, pour moi qui est le meilleur dessinateur. En un dessin, il exprime tellement de choses. Je suis sûr qu'il serait mieux à même que moi de résumer cette année en un seul dessin. Je ne sais pas ce qu'il ferait. Peut-être plein de gens seuls dans une foule.
Qui t'a inspiré ? Qui tu aimes en tant que... Hormis Sampé, qui t'a inspiré en fait dans tout ce que tu fais ?
À la base, je suis un vrai fan, on va dire, des classiques, mais on va être clair, celui qui m'a vraiment donné envie de dessiner, d'être auteur de BD, c'était Les Tuniques Bleues, qui a été la première BD où d'un seul coup j'ai envie de faire pareil, voilà, on va dire. Voilà, et après, bon, alors il y a eu des auteurs plus adultes, donc il y a eu Loisel, il y a eu Isler, Baru, que j'aimais beaucoup, etc. Voilà, tous ces gens-là m'ont inspiré. Et puis j'aimais aussi beaucoup Franck P, qui n'est pas très connu, mais qui a récemment repris Marsupilamier version réaliste. Et voilà, après, dans la nouvelle génération, on va dire que celui qui me fait vraiment rire et que j'adore, c'est Larsenet.
Et justement, tu parlais de Isler, les Sambres, qui sont peut-être ce qu'il a fait de mieux. Et aujourd'hui, les Sambres ont été repris. Qu'est-ce que tu penses, toi, de des personnages qui ont été créés comme ça et qui sont repris par d'autres dessinateurs, Spirou et Fantasio ont été... qu'est-ce que tu en penses ? Et la question qui suivra, ce sera, est-ce que toi, tu aimerais reprendre aussi d'autres personnages comme ça, de grands ?
Ça risque peut-être de m'arriver, j'espère, parce que de toute façon, maintenant, c'est la tendance. Hein. Mais en même temps, on arrive, en fait, les éditeurs, c'est à la fois dommage, c'est qu'ils n'arrivent plus à créer des nouvelles licences, mais ils ont bien compris qu'effectivement, la BD, c'est des licences. C'est comme aux États-Unis, vous avez Tarzan, vous avez surtout Superman, Spider-Man, etc. Et il y a des tas d'auteurs qui, à un moment, prennent des personnages emblématiques. Et en France, c'est en train de devenir aussi un peu ce qui est en train de se passer avec Lucky Luke, avec Boulet Bill, etc. Mais à mon avis, à mon sens, il serait temps aussi de penser à renouveler les personnages populaires, parce que la BD est un art populaire. Et depuis un certain temps, elle est plus tellement populaire. On parle de sujets de société, sujets graves, c'est bien. Mais des espèces de héros comme Snoopy, Garfield, Popeye, qui parlaient à tout le monde, on n'en voit plus beaucoup arriver. Quoi. Un petit peu pour les enfants, en ce moment il y a Mortel Adèle qui est en train de faire un énorme succès. Mais c'est voilà. Et moi, en tout cas en tant qu'auteur, il me reste je ne sais pas combien de temps à exercer, mais je vais essayer toujours de continuer. Pour l'instant je ne suis pas arrivé à créer un personnage qui rentre... dans l'imaginaire populaire, mais c'est quand même le but pour moi d'un auteur de BD, enfin en tout cas de moi.
Pérégrination du festival, on est avec Lugui. Bonjour.
Bonjour, salut.
Prix de légende 2021 pour ton œuvre, ouais. Du festival Enemy BD. Je vois là sur le stand que tu as c'est blindé de plein de choses. Ça fait quoi d'être prix de légende ? Parce que légende, ça veut dire quand même...
Ça veut dire que je suis un vieux.
tu crois que vieux ?
Oui. J'ai plus de 50 ans de métier, de publication. Donc, je suis un vieux. Je suis peut-être même peut-être le plus vieux du circuit cette année, hein, probablement.
Et ça fait quoi de recevoir un prix à Enemy ? Quelle est la tâche que tu as à ce festival ? Ça t'a fait quoi ?
Ah ben, ça fait plaisir, tout simplement, parce que ça veut dire que les gens aiment bien ce qu'on fait, et c'est une manière de reconnaître le travail. Donc, c'est toujours satisfaisant. Ça nous caresse dans le sens du poil, si j'ose dire. Mais surtout, ça montre que ce qu'on a fait n'est pas passé inaperçu, et que donc, ça a marqué. Et que ça continue de marquer. Donc c'est ça qui est important, parce qu'en fin de compte, c'est un métier, on le fait vraiment par passion, parce que rester assis à une table à dessin pendant 10-12 heures par jour, et quelquefois plus, pendant plus de 50 ans, si on n'est pas passionné, c'est quand même un petit peu inquiétant. Donc voilà, c'est la reconnaissance du travail qui a été fait, de ce qu'on a fait et de ce qu'on va faire. Parce que je continue, il n'est pas question que j'arrête. C'est un métier où on n'arrête pas. On meurt le crayon à la main, a priori.
J'ai la chance dans mon boulot de voir un peu pas mal de dessinateurs, dessinatrices, etc. Et qui m'ont dit en fait le confinement ne change rien. Puisque en tant que dessinateur, auteur, autrice, on est toujours un peu confiné. C'est un peu ça aussi, 50 ans.
C'est ça, de toute façon, c'est obligatoirement ça. C'est le confinement éternel. Donc c'est vrai que le confinement tel qu'on le vit nous, on n'a pas du tout les mêmes répercussions, puisque volontairement, on a besoin de s'isoler pour faire le boulot. On a besoin de se concentrer, de faire notre travail. Donc il faut être concentré, refermé sur soi-même, être un petit peu dans sa bulle, si j'ose dire, puisqu'on est dans la bande dessinée. Et le confinement, ben voilà, il est passé, il s'est passé à travailler. La différence peut-être qu'il y a, c'est que comme il n'y avait plus de séances de dédicaces, plus de festivals, plus rien, la majeure partie de mes collègues a travaillé plus que ce qu'on travaille habituellement, puisque on s'est pas rendu... Ah, il est tombé. On a travaillé de manière régulière et continuelle, alors que habituellement, on a quand même des plages d'intermittence, entre guillemets, qui font que ça coupe un petit peu le rythme. Là, il n'y avait pas de rythme coupé. Ce qui nous a manqué, c'est surtout le contact avec les autres. Et ça, c'est comme pour tout le monde. Ce n'est pas exceptionnel pour les auteurs de bande dessinée. Je pense que quelqu'un qui avait l'habitude d'aller au boulot, de retrouver les amis, etc., ou les collègues avec lesquels il s'entend bien, rester pendant des mois sans les voir, c'est traumatisant. On est des animaux de contact. On a besoin des autres pour exister.
Si tu es un peu dans... Alors, est-ce que je pourrais dire que tu es dans l'héroïque fantasy un peu, c'est ça ?
Oui, ben c'est la première série, de médiéval fantastique qu'on a appelé l'héroïque fantasy, qui est sortie en France. Donc elle a 36 ans, cette série. Donc voilà, c'est pas d'aujourd'hui. Et donc ça mêle l'aventure, ça s'appelle Persévérance, et édité aux éditions d'Argot principalement, maintenant aux éditions du Tiroir, qui est une petite maison d'édition, uniquement avec des bons vieux professionnels. Et cette série a été la première série humoristique fantastique, fantastique et médiéval, hein, ce qui est devenu l'héroïque fantasy. Voilà.
Si aujourd'hui tu penserais tes personnages évoluer avec la pandémie, le truc, est-ce que ça pourrait t'inspirer en fait ? Est-ce que ça te ferait rigoler en fait ?
Non, ça ne me ferait pas rigoler, mais on s'inspire. Dans Persévérance, on a traité par exemple d'un sujet qui est grave, qui est la mort. Acceptation de la mort et non-acceptation de la mort. Donc pour une série qui est destinée a priori aux 7-77 ans, on a pris des sujets un petit peu graves. On a traité sur l'amour. Et là, on traite, dans le prochain album, sur le fait que, quoi qu'il en soit, on a fait primer d'une certaine manière quand même l'argent avant la création et avant. On voit très bien que dans les restrictions qui ont été faites, on a fait tourner les usines, on a fait tourner les écoles, on a fait les hôpitaux, tout ce qu'on veut. Mais tout ce qui était artistique est passé à la trappe. C'était en second plan. Et moi, j'ai plein d'amis qui sont dans le domaine artistique et qui ont morflé à mort, quoi qu'il en soit, même s'ils ont été aidés et tout. Il faut savoir que la plupart des artistes ont beaucoup de mal à vivre. C'est très, très difficile. Et donc, on voit bien que cette société est une société quand même qui est axée sur la productivité et l'argent, plus que sur le culturel. Alors que les années précédentes, le culturel a été très important, a été très développé. Peut-être pour ça qu'il y a autant d'artistes d'ailleurs, parce que ça a permis aux gens de s'exprimer et c'est très important. Et voilà, alors donc on va traiter de ce sujet.
C'est cool, ouais, l'exception culturelle française, comme on l'appelle. Hein,
c'est ça. Ouais. Elle s'en est pris une claque. Elle s'est pris une claque, l'exception culturelle française. Et mais d'un autre côté, bon, il faut reconnaître aussi, il ne faut pas cracher dans la soupe, il faut reconnaître quand même qu'en France, c'est un des seuls pays où les artistes sont assistés quand même, quand ils sont officiels, je suppose. Parce que moi, je n'ai pas ce régime, mais ils ont quand même l'intermittence du spectacle qui leur permet de survivre. Parce que c'est facile de comprendre qu'un artiste, il peut tourner pendant 3 mois, être blindé de travail pendant 3 mois, et puis le reste de l'année, ne plus avoir de travail parce qu'il n'y a pas de commande, parce qu'il n'y a pas de théâtre qui s'ouvre, parce qu'il n'y a pas de pièce qui vient, ou il n'y a pas de film qui se tourne pour l'artiste en question. Et donc, il se retrouve au chaume nu, quoi. Et il faut bien qu'il bouffe pendant ce temps-là, hein. Et s'il se met à faire un autre métier, il n'est plus artiste.
Tu as des années de métier. Quel conseil tu donnerais à un jeune?
Oh ben, c'est d'être passionné. C'est d'être passionné et de ne pas démordre du truc. Voilà. Il n'y a pas, 36 manières. C'est faire intégralement le métier, quoi qu'il arrive. Ça, c'est pas facile.
C'est-à-dire même galérer.
Ah bah oui, mais de toute façon, un métier d'artiste, c'est pas un métier de confort. Sauf quand il y a d'un seul coup les petites fées qui se penchent sur le berceau et qui font qu'il y a un succès. Mais un succès, c'est quelque chose d'éphémère. Et donc, il faut savoir que ça ne dure pas. C'est comme la vie, ça ne dure pas. Tout est de passage. Et donc, pour durer, il faut croire en ce qu'on fait. Croire très fort en soi, ne pas écouter les sirènes qui disent et continuer à faire son métier et quoi qu'il en soit. Mais j'ai toujours dit, et je le pense toujours, tant qu'à avoir un SMIC, je préfère avoir un SMIC en étant créatif et chez moi, que d'avoir un SMIC en supportant un chef à qui j'ai envie de foutre mon poing dans la gueule. Voilà.
Le message est passé. Lugui ou Philippe, prix légende 2021 du festival. Merci beaucoup.
Merci.
La deuxième partie du reportage consacré à Enemy BD, ce sera ce mercredi. Voilà, c'est la fin de cette matinale. On se retrouve mercredi justement et on se quitte avec Moonlight Warriors, Rocket to the Moon. Passez une agréable journée sur Radio Arthas. Prenez soin de vous. À mercredi. Ciao. In 1954, rocking to the moon, baby, let's go fast. Soon, baby girl, we'll be having a blast. Oh, and you see me, baby, I'm losing mine. And you turn on back around and say your goodbye. That's about 96. I'm a mean cool cat, I'ma get my fix. Hey, you know, I can do the moon, baby, let's go fast. Oh, it's just baby girl, we'll be having a blast. Oh, your decision, baby, I'm passing by. And you turn on the back around and say you can buy it. We'll be right back.
the girl with the head of the flask.